On continue notre étude du survol des 66 livres de la Bible. Nous sommes rendus au livre de Abdias. Alors, comme on le fait à chaque début de livre, chaque nouveau livre, on regarde l'arrière-plan du livre, son but principal, le plan, les thèmes majeurs du livre, les personnages clés, les versets clés, les leçons pour le peuple de Dieu d'alors et d'aujourd'hui. Et aussi la place et la présence de Jésus-Christ. L'arrière-plan. Le livre d'Abdias est le plus court de tout l'Ancien Testament. Il comprend juste 22 versets. Et il traite de l'hostilité farouche qu'Édom, les descendants d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob, nourrit à l'égard d'Israël, le peuple élu de Dieu. La première impression que laisse sur l'esprit la lecture de cette très brève prophétie est qu'elle a très peu à dire pour notre temps. Nous devons cependant nous tenir au principe suivant et en tenir compte. Les passages ou les livres de l'Écriture qui semblent les plus vides nécessitent l'attention la plus soutenue car ils donnent immanquablement les résultats les plus remarquables. L'auteur. Le nom Abdias signifie « serviteur de Yahvé » ou « adorateur de Yahvé ». C'était un nom très commun dans l'Ancien Testament. Très peu de choses sont connues de lui. Dans l'Ancien Testament, 13 hommes portent le nom d'Abdias. Plusieurs ont tenté d'identifier le prophète Abdias à l'un ou à l'autre de ses personnages. Quelques savants, aussi bien des Juifs que des premiers chrétiens, ont vu en Abdias le prophète, le chef de la maison du roi Akab, qui s'appelait Abdias lui aussi. Mais en l'absence de toute indication claire de l'Écriture, il n'est pas sage de vouloir coûte que coûte identifier Abdias, le prophète, à l'un des quelconques de ses homonymes. La date de composition et la période historique. Privés de toute indication précise au début du livre, nous sommes tributaires des seules preuves internes pour déterminer le contexte historique. La prophétie d'Abdias est la réponse à une agression extrêmement violente d'Édom contre Israël. Parmi les nombreuses possibilités, deux sont plausibles. Soit immédiatement après le départ pour la captivité babylonienne, en 586 avant Jésus-Christ, soit 250 ans plus tôt, sous le règne de Joram, de 853 à 841 avant Jésus-Christ, ou peu après. Le contenu du livre peut s'appliquer à l'une comme à l'autre de ces agressions. L'Écriture ne donne aucun moyen de trancher entre les deux possibilités. Le but principal du livre, le deuxième point, la prophétie d'Abdias ne se limite pas à des jugements contre Édom. Abdias prend l'attitude générale des Édomites vis-à-vis du peuple de Dieu comme base de sa prophétie et considère le jugement contre Édom comme une des caractéristiques du jugement universel contre les nations. Il voit dans la destruction de la puissance d'Édom l'annonce du renversement de la puissance de toutes les nations hostiles à Dieu. Si le règne doit appartenir à l'Éternel, comme l'annonce Abdias, les royaumes terrestres doivent au préalable devenir son royaume et celui de son Christ. Le livre de l'Apocalypse rapporte l'accomplissement ultime de la prophétie d'Abdias, dans Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Alors, à la page 3, ceux qui ont vous avez le plan succinct, donc un petit plan court, même s'il y a juste 22 versets, puis vous avez un petit plan un peu plus détaillé à la page 4. vous laisse regarder ça. C'est très bon, comme je vous l'ai rappelé à chaque fois, de revenir, quand on étudie le livre, de revenir sur ces choses-là pour vous aider à mieux comprendre. Le quatrième point, c'est les thèmes majeurs du livre d'Abdias. Alors, un des thèmes majeurs, c'est ça, sûrement le jugement de Dieu contre Édom. On sait que les Édomites étaient les descendants d'Ésaü. On le sait par Genèse 25, verset 30. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Deuxième thème, les promesses de Dieu et l'héritage d'Israël. Le troisième thème, celui de l'espérance que Dieu restaurera son peuple. À la page 5, vous avez le cinquième point qui est les personnages clés. Abdias, le peuple d'Édom et Israël, bien sûr, sont les personnages clés. Les Édomites furent souvent hostiles au peuple d'Israël. Par exemple, ils refusèrent le droit de passage aux Israélites sur leur territoire. On peut lire ce passage-là dans Nombre, chapitre 20, versets 14 à 21. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Ainsi parle ton frère Israël, tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Édom lui dit, « Tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les enfants d'Israël lui dirent, « Nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. » Il répondit, « Tu ne passeras pas. » Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et Israël se détourna de lui. En 586 avant Jésus-Christ, lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, attaque Jérusalem et la détruit, Édom encourage l'anéantissement de son ancien ennemi. Ézéchiel prophétise dans Ézéchiel 25, versets 12 à 14, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce qu'Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'étends ma main sur Édom, j'en extermine les hommes et les bêtes, j'en fais un désert de Téman à Dédan. Ils tomberont par l'épée, j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur, et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. » Pendant 1300 ans, Édom témoigne une hostilité presque ininterrompue envers Israël. La prophétie d'Abdias révèle le jugement de Dieu contre la nation qui descend d'Ésaü à cause de son animosité constante et durable et sa violence contre le peuple issu de Jacob. Deux versets clés, sixième point, les versets clés du livre d'Abdias. Abdias 1, verset 10. « À cause de la violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte, et tu seras exterminé pour toujours. » Et dans le verset 17, « Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. » Septième point, les leçons pour le peuple de Dieu. Dieu a tenu sa promesse à Abraham. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te, ceux qui te maudiront. » Genèse chapitre 12, verset 3. « Son royaume viendra, et son règne sera suprême. » Dieu juge ceux qui s'opposent à l'accomplissement de son plan et ceux qui persécutent son peuple. Nous devons demeurer patients dans les difficultés, sachant que Dieu est pour nous. Maintenant, le huitième point, la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre. Le Nouveau Testament ne fait pas la moindre référence à cette courte prophétie. Ces pages contiennent cependant des idées et des parallèles intéressants. Par exemple, celui de l'hostilité contre Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le descendant et l'ultime représentant de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Quand il était sur la terre, ce descendant de Jacob subit l'hostilité d'un descendant et représentant d'Ésaü. Lorsque Jésus naquit à Bethléem, un Ituméen ou Édomite s'intéressa particulièrement à lui. C'était Hérode le Grand, celui à qui les mages venus d'Orient demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Hérode le Grand était lui-même le roi des Juifs. Car en 37 avant Jésus-Christ, l'empereur romain Auguste avait étendu les limites de son empire en annexant 5 districts, 3 à l'ouest du Jourdain, la Judée, la Samarie et la Galilée, et 2 à l'est, Pérée et Idumée. Ces pays forment actuellement Israël, la Jordanie, la Syrie et le Liban. Le nom Idumée est la forme grecque d'Édom. Hérode le Grand était Iduméen, autrement dit, un Édomite, un descendant d'Ésaü. L'hostilité entre les deux peuples persistait. Hérode tenta de supprimer le vrai roi des Juifs lorsqu'il ordonna de massacrer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Hérode le Grand mourut en l'an 4 avant notre ère. À sa mort, son royaume fut divisé entre ses 3 fils, Archéléus, Hérode Antipas et Philippe. C'est Hérode Antipas à qui Jean-Baptiste reprocha sa façon de vivre immorale et qui le fit exécuter. C'était ce même Hérode Antipas que le Seigneur Jésus fit adresser ce message. « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Un an ou deux plus tard, après l'arrestation du Seigneur Jésus, Pilate l'envoya à Hérode Antipas. On le lit dans Luc 23, versets 8 et 9. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Hérode Antipas perpétuait les atrocités d'Édom. Donc, autre chose dans le place de la présence de Jésus-Christ, l'hostilité contre l'Église de Christ. Certains commentateurs ne voient dans la prophétie d'Abdias que l'hostilité d'une nation envers les Juifs et la manière dont Dieu a préservé son peuple d'autrefois. La Bible Thomson, avec chaîne de référence, partage ce point de vue en déclarant que la leçon spirituelle qui se dégage du livre est la solitude particulière et providentielle de Dieu à l'égard d'Israël et la certitude du châtiment de ceux qui le persécutent. Dans le même ordre d'idées, Robert Lee, écrit Kabdias, contient un avertissement contre la haine portée aux Juifs, contre les misères qui leur sont faites, car Dieu prend la défense de son peuple et détruira ses ennemis. Mais le message d'Abdias est tout de même plus profond. Israël, qui représente l'Église de Dieu de l'Ancienne Alliance, est décrit comme une femme en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Israël porte en son sein le Messie. Toute l'hostilité manifestée contre Israël dans l'Ancien Testament n'est qu'une tentative satanique d'empêcher la venue du Messie. L'hostilité et la violence des hommes envers Israël sont l'expression de la haine séculaire entre les infidèles et les fidèles. La haine d'Ésaü contre Jacob est une autre expression de celle de Caïn contre Abel. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. À l'époque d'Abdias, Israël était dans la désolation et semblait abandonné, alors qu'Édom était prospère, en sécurité, arrogant, riche et puissant. Mais l'Éternel promit le rétablissement d'Israël et la destruction d'Édom. À cet égard, Malachie est encore plus imagé. Malachie, chapitre 1, versets 2 à 5. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel par-dessus les frontières d'Israël. » Et troisième point, la souveraineté de Dieu dans le salut. Paul rappelle cette antique saga entre Israël et Édom. Il défend la souveraineté de l'élection divine. Les deux enfants de Rebecca avaient un seul et même père, et ils étaient jumeaux. Mais Dieu avait décidé que l'aîné serait assujetti au cadet. Genèse 25, verset 23. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Comme Malachie avait dit dans Malachie 1, verset 2 et 4, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'était-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Trois applications. La première, même les livres ou les passages les plus courts des Saintes Écritures regorge d'enseignements théologiques et pratiques pour toutes les générations. Deuxième application, c'est un péché très grave que d'essayer de contrecarrer et de s'opposer à l'avancement du royaume de Dieu. Des jugements d'une grande sévérité s'abattront sur les ennemis du Seigneur. Troisièmement, le Seigneur est souverain d'une manière absolue. Toutes ses promesses s'accompliront tôt ou tard. Admirons la grande miséricorde de Dieu envers son peuple. Que l'Éternel soit loué, béni et adoré à tout jamais. Amen.